You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Les principaux titres de l'actualité de ce mardi 8 octobre 2019. Donald Trump sous le feu des critiques, y compris dans son propre camp, celui des Républicains, après avoir annoncé le retrait des troupes américaines de Syrie. Un peu de répit en revanche pour Boris Johnson, alors qu'un tribunal écossais vient de refuser de l'obliger à repousser la date du Brexit si aucun accord n'est trouvé d'ici au 19 octobre. Et en France, le gouvernement a ouvert hier à l'Assemblée nationale un débat sur l'immigration. Le Premier ministre Édouard Philippe se dit favorable à l'instauration de quotas. À chaque jour suffit sa peine, dit le proverbe, et s'il y a bien un homme pour qui c'est vrai, c'est Donald Trump. Déjà empêtré dans une procédure visant à le destituer, le président américain est aujourd'hui sous le feu des critiques après qu'il ait annoncé le retrait des troupes américaines de Syrie, où pourtant les tensions sont loin d'être apaisées. Une décision contestée, y compris par certains de ses plus ardents défenseurs. Le décryptage d'Anne Corpet, correspondante de RFI à Washington.
Une grave erreur, selon Marco Rubio, sénateur de Floride. Une trahison qui montre que l'Amérique n'est pas un allié fiable pour Mitt Romney, élu de l'Utah. Les sénateurs républicains ne mâchent pas leurs mots pour exprimer leur désaccord. Lindsey Graham est intervenu sur Fox News dans la matinée, une chaîne que le président regarde en continu à ce moment de la journée. Le sénateur, très proche de Donald Trump, a lui aussi vivement condamné l'annonce du retrait des troupes américaines de Syrie.
Les Kurdes se sont levés quand personne ne voulait le faire pour combattre le groupe État islamique. Si nous les abandonnons, bonne chance pour trouver qui que ce soit pour aider les Américains à lutter contre l'islam radical, Al-Qaïda et l'État islamique. La défaite de l'EI est le plus gros mensonge de cette administration. J'espère que je suis clair, cette décision est à mon sens aveugle et irresponsable.
Lindsey Graham a ensuite annoncé qu'il allait déposer une résolution au Congrès avec un sénateur démocrate. Elle prévoit des sanctions contre la Turquie si elle envahit la Syrie et sa suspension de l'OTAN si Ankara attaque les forces kurdes qui ont aidé les Américains à lutter contre l'EI. Face à cette levée de boucliers au sein de son propre camp, le président a finalement réagi. « Si la Turquie fait quelque chose que dans ma grande sagesse inégalée, je considère au-delà des limites », écrit-il sur Twitter, « je détruirai complètement son économie ». Anne Corpet, Washington, RFI.
Et en Israël, la colère des Arabes israéliens qui dénoncent une aggravation des violences dont ils sont victimes de la part de leurs compatriotes de confession juive. Benjamin Netanyahou, qui a longtemps désigné les Arabes israéliens comme ses adversaires politiques, a fini par promettre de renforcer leur protection. On fait le point avec Guillaume Deltey pour RFI.
À plusieurs reprises ces dernières années, Benjamin Netanyahou a désigné la communauté arabe comme ses adversaires politiques et il lui a fallu plusieurs jours pour répondre à cette colère grandissante. Finalement, le Premier ministre a promis ce dimanche d'accroître les moyens de la police afin de continuer à lutter contre la violence et il a également appelé les représentants de la communauté arabe à agir avec responsabilité afin de permettre une évolution substantielle, dit-il, de la situation. Ces déclarations ont été froidement reçues par les élus de la liste unie, coalition de partis arabes. Il s'agit d'une négligence criminelle de la part du gouvernement de droite, a écrit Ofer Kassif sur Twitter, alors que le chef de file de cette union estime que la sincérité de ces déclarations sera validée uniquement par l'adoption d'un plan de grande envergure en Conseil des ministres. Et alors que le chef du gouvernement avait déjà du mal à convaincre, son ministre de la Sécurité publique s'est attiré les foudres des représentants de la communauté arabe. Dans une interview ce matin, Gilad Erdan a jugé que les Arabes forment une société très très violente. Il a entamé une marche arrière peu de temps après son interview, rappelant la responsabilité de la police, mais ses propos ont été qualifiés de racistes par d'autres députés. Guillaume Deltay, Jérusalem, RFI.
Et puis, vous vous en rappelez, ces dernières semaines, un peu partout dans le monde, des États-Unis à l'Australie, en passant par la France et l'Allemagne, des manifestations et des marches pour le climat se sont déroulées. Et au cours de celles-ci, eh bien, des centaines de personnes ont été arrêtées. Mais ça n'a néanmoins pas découragé les plus motivés de ces manifestants qui comptent de nouveau se mobiliser au cours des deux prochaines semaines. C'est le cas, par exemple, de cet activiste allemand qui compte mettre la pression sur son gouvernement pour qu'il prenne des mesures drastiques pour lutter contre le changement climatique. On l'écoute.
Wir sind nicht hier für diese Aktion. Wir sind hier, um die Regierung unter.
We're not here for action. We are here to put the government under pressure. For us, a success would be for the government to declare a climate emergency.
Extinction Rebellion ist eine absolute.
Extinction Rebellion is a non-violent movement which has taken upon itself to get the government moving, to achieve climate protection goals and finally to tell the truth to the people.
Et c'est une petite victoire pour Boris Johnson. Hier, un tribunal écossais a refusé d'obliger le Premier ministre britannique à repousser la date du Brexit dans l'hypothèse où il ne parviendrait pas à obtenir un accord d'ici à la date limite du 19 octobre. Mais les députés à l'origine de ce recours en justice n'ont pas encore dit leur dernier mot puisqu'ils ont annoncé qu'ils comptaient faire appel de cette décision. Les explications de Muriel Delcroix pour RFI.
Les militants anti-Brexit n'ont aucune confiance en Boris Johnson et demandaient à la justice écossaise d'intervenir en ordonnant aux dirigeants conservateurs d'envoyer une lettre à Bruxelles réclamant un report du Brexit et en l'empêchant de saboter la loi passée par le Parlement britannique. L'injonction du tribunal aurait notamment interdit au Premier ministre de demander à des États membres européens d'opposer leur veto à un report ou bien d'envoyer en parallèle une lettre contredisant sa propre demande. Mais le tribunal écossais a rejeté cette requête, estimant qu'elle n'était pas nécessaire à partir du moment où les avocats du gouvernement ont assuré qu'il obéirait à la loi. Si le magistrat a choisi de croire en la bonne foi de Boris Johnson, il a néanmoins glissé un clair avertissement dans son jugement, prévenant le Premier ministre qu'il n'avait pas intérêt à trahir sa parole et à, je cite, « détruire les principes constitutionnels ». Ce qui n'empêche pas Boris Johnson de continuer à semer la confusion en affirmant qu'il demandera bien une extension au bloc européen, mais que le Royaume-Uni sortira bien le 31 octobre. Une contradiction énigmatique que personne n'a encore réussi à résoudre. Muriel Delcroix, Londres, RFI.
En Australie, le sujet du jour à Canberra, c'est l'immigration. Pour l'opposition fédérale, les passeurs ont laissé tomber les bateaux qui arrivaient sur les côtes australiennes et ils font désormais prendre l'avion à ceux qui espèrent trouver en Australie une nouvelle vie. Au cours des 5 dernières années, plus de 95 000 personnes sont arrivées par avion en Australie pour y faire une demande d'asile. Une population par définition fragile, à la merci d'employeurs peu scrupuleux, mais aussi de la mafia qui profite du temps très long, 4 ans en moyenne, que ces derniers doivent attendre pour que leur demande d'asile soit traitée par les autorités. C'est en tout cas ce que croit savoir Christina Kinnelly, elle est porte-parole des affaires intérieures pour le Parti travailliste.
And what happens in that four-year period? Well, people are trafficked through these labor hire companies and other, let's call them scam operations, to work in agriculture, to work in hospitality, to work in nail salons, to work in brothels. And they are often paid as little as $4 an hour. They will have their passports removed from them. They will experience some of them sexual and physical abuse.
Et l'immigration est également au menu de la politique française. Hier, le gouvernement a ouvert un débat sur le sujet à l'Assemblée nationale. Édouard Philippe, le Premier ministre, a ainsi annoncé qu'il était favorable à la mise en place de quotas et qu'il souhaitait utiliser davantage l'aide au développement comme levier de régulation de l'immigration en France. On écoute les explications du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.
L'aide publique au développement permet à nos partenaires du Sud de se doter des capacités indispensables pour maîtriser eux-mêmes les flux migratoires. Un état civil à jour, des outils de lutte contre la fraude documentaire, mais aussi des moyens pour mieux contrôler leurs frontières et combattre les réseaux de passeurs et les trafics d'êtres humains, c'est le sens des projets que nous conduisons en lien avec l'Union européenne dans plusieurs pays, comme le Sénégal, le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée ou la Tunisie. Enfin, l'aide au développement est essentielle pour traiter dans la durée les causes profondes des migrations irrégulières. Chacun doit comprendre que lorsque nous soutenons l'accès aux soins de la population comorienne, lorsque nous offrons à la jeunesse d'Afrique de l'Ouest la possibilité d'une éducation supérieure d'excellence grâce au campus universitaire franco-sénégalais de Dakar, lorsque nous promouvons au cœur du Sahel l'agropastoralisme au profit des petites filières agricoles, alors oui, nous apportons des solutions concrètes au développement de ces pays et nous apportons des solutions concrètes aux défis migratoires.
Et on revient en Australie pour parler de cet espion devenu lanceur d'alerte, car il doit comparaître cet après-midi devant un tribunal à Canberra. Il est accusé d'avoir révélé que les services secrets australiens avaient placé en 2004 des micros dans les bureaux du Premier ministre du Timor oriental. À cette époque où l'Australie, comme d'autres pays, espérait remporter un énorme marché visant à exploiter les gisements de gaz et de pétrole de ce petit pays, devenu indépendant il y a tout juste 20 ans. L'ancien espion, qu'on appelle le témoin K, est accusé de conspiration pour avoir partagé des informations classifiées avec le gouvernement du Timor oriental et on s'attend à ce qu'il plaide coupable cet après-midi. Il est par ailleurs soutenu par le Human Rights Law Center qui appelle pour sa part à un abandon des poursuites vis-à-vis de ce fameux témoin K. Et ce même groupe estime qu'il devrait plutôt que chercher à le mettre en prison, que le gouvernement devrait le protéger. Et en Nouvelle-Zélande, comme en Australie, l'héritage du capitaine James Cook suscite la controverse. La Nouvelle-Zélande s'apprête à célébrer le 250e anniversaire de l'arrivée de l'explorateur anglais sur leur côte, marquant ainsi le début de la colonisation. Mais comme en Australie, où certains remettent en cause le jour de la fête nationale qui correspond au début de la colonisation anglaise en Australie, certains s'opposent en Nouvelle-Zélande et en particulier au sein de la communauté maori à la célébration de cet anniversaire. On finit par un point rapide sur la météo. Grand soleil à Perth où il fait 34 degrés. Des nuages en revanche à Adélaïde où il fait 16 degrés. 14 degrés à Melbourne où il y a des averses. Les conditions météo sont à peu près les mêmes à Sydney avec des températures maximales de 24 degrés. Il fait en revanche très chaud à Brisbane avec 36 degrés. Et le soleil brille très fort aussi à Darwin avec 34 degrés.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.